En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le Festival de cinéma de La Rochelle a maintenant une solide réputation. Il a lieu tous les ans, courant juin-juillet. Et un peu en marge de ce festival, s'est déroulé, pour la première fois en juin 2008, un colloque droit et cinéma consacré pour cette première édition au huis clos. Initié par la faculté de droit de La Rochelle et épaulé par la région Poitou-Charente et le laboratoire d'analyse de l'action publique et de l'Europe, le LASAP, le but était de découvrir les domaines juridiques auxquels se sont intéressés le cinéma du monde entier, en particulier le cinéma français et américain, les Américains étant les plus productifs du monde occidental. Le huis clos est un élément de procédure judiciaire qui souvent s'apparente au théâtre avant d'être reproduit au cinéma. Aussi, l'invité d'honneur de ce colloque de deux jours n'était autre que Raymond Depardon, auteur du documentaire « La dixième chambre ». Le réalisateur avait glissé sa caméra au sein d'une chambre correctionnelle de Paris où les prévenus se succédaient. Pour un regard à la fois cinématographique et juridique, vous entendrez dans quelques instants Jean Tullard, historien, académicien des sciences morales et politiques, auteur des dictionnaires du roman policier, puis Jean-Paul Pancratio, docteur d'État agrégé en droit public. Cette retransmission se termine par le rapport de synthèse produit par Françoise Thibault, docteur en droit public et en sciences politiques et correspondant de l'Institut. Mais tout de suite, place à Jean Tullard.
Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames, messieurs, après la guerre, la justice ne serait-elle pas l'un des thèmes de prédilection du 7e art, de préférence à la politique, à la médecine ou à la religion? Hollywood a toujours adoré les batailles de prétoire, les coups tordus de la procédure, les renversements de preuves, les effets oratoires, tout ce qui fait le déroulement d'un procès. Et nous allons en découvrir de nombreux exemples dans ce colloque. Le cinéma français n'a pas non plus boudé le sujet. Il y a le juge d'instruction sur qui repose l'enquête, héros solitaire qui refuse les pressions, dans le dossier noir de Kayat, par exemple, au risque de briser sa carrière, et paie parfois de sa vie sa volonté de faire la lumière, que l'on pense au juge de Philippe Lefebvre, inspiré par l'affaire Michel, ou au juge Fayard d'Yves Boissé, portrait du juge Renaud. Il y a le président des Assises, qui, dans le glaive et la balance de Kayat, se trouve confronté à une grave question: faut-il faire condamner un innocent pour être sûr de châtier deux assassins? Il y a le procureur, du président Hautecoeur de Jean Dréville à celui de la vérité de Clouzot, procureur toujours intransigeant comme il se doit. Il y a les témoins qui embrouillent plus qu'il n'éclaire l'affaire. Témoins à charge, témoins à décharge, faux témoins et témoins de moralité. Le plus beau témoin de l'histoire du cinéma, c'est évidemment Darry Cole dans Assassin et voleur de Guitry, qui en mêle l'affaire jusqu'au moment où on s'apercevra qu'il était témoin dans un autre procès. Il y a l'avocat, le plus fameux étant Rému, qui prononce une plaidoirie demeurée célèbre dans Les Inconnus dans la maison. À travers cette plaidoirie, il reprend l'enquête et démasque le coupable. Il y a d'ailleurs au cinéma beaucoup plus d'avocats marrons que d'avocats honnêtes, comme si le 7e art n'aimait pas la profession. On pense à Pierre Brasseur dans Les Bonnes Causes. Il y a enfin le jury qui a le dernier mot, comme dans Justice est faite de Kayat. Et me direz-vous, l'accusé? Ouf, l'accusé, c'est l'enjeu. Il ne compte guère. Il a la neutralité d'un ballon de rugby dans une finale du top 14. pratiquement, il est le personnage, le sujet, mais autour duquel gravitent tous les acteurs, lui-même restant passif. Le cinéma s'est aussi passionné pour les anciens procès. Pour nous en tenir à la France, qui ne connaît la passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, film rigoureux sous l'angle historique, tout en gros plan, cernant les âmes derrière les visages dans l'affrontement entre Jeanne et ses juges. Bresson reprendra le thème dans Le procès de Jeanne d'Arc en 1962. L'affaire du courrier de Lyon, d'Otan Lara, nous offre un procès à l'époque du directoire, où l'on voit le Surc condamné sur le témoignage de témoins abusés par une ressemblance et qui se retrouve dans le camp de l'accusation, alors que, d'après la thèse du film, le Surc serait innocent. Autre innocent fameux, accablé par la justice, Dreyfus. Plusieurs films, dont un film américain de José Ferrer en 1957, ont évoqué les divers procès Dreyfus. Le meilleur, parce que le plus proche des faits, c'est, et vous pourrez le constater, celui de Méliès. L'affaire Lafarge, Marie Lafarge avait-elle vraiment empoisonné son mari, fut évoquée en 1937 par Pierre Chenal. Il y eut aussi Marie Bénard et Gaston Dominici transformés en héros du 7e art. Rien n'échappe en définitive à la caméra. Du tribunal ecclésiastique au tribunal militaire, du tribunal révolutionnaire aux assises. Et le cinéma nous apprend que la justice est variable selon les pays. La solennité de l'institution frappe en France, le port de la robe, et en Angleterre, le port de la perruque, ainsi que son caractère sacré. Cela est moins vrai aux États-Unis, comme nous allons le découvrir dans les séances suivantes. La justice est distincte de la loi dans les westerns, où un saloon tient lieu de prétoire, tandis que la corde qui attend le condamné se balance à l'extérieur. C'est le juge ici qui fait la loi, et non la loi, le juge. Pensons au juge Roy Bean de John Huston, dont juge est hors la loi. La loi, c'est moi, dit le juge de Je suis un aventurier d'Anthony Mann. Le droit, c'est l'homme, pour de nombreux films de John Ford, le juge Priest, et surtout Le soleil brille pour tout le monde, où le juge, soumis à réélection, n'hésite pas, contre ses électeurs, à sauver du lynchage un noir accusé de viol. Il sera réélu, mais d'une seule voix, la sienne. D'ailleurs, les juges continuent à être élus aux États-Unis conformément à la séparation des pouvoirs, comme ils le furent sous la Révolution en France. Unité de lieu, le prétoire, unité de temps, la durée des séances, unité d'action, une affaire, le procès répond aux règles de la tragédie classique. Même si l'audience est ouverte à tous, le procès est un huis clos, puisque dans un lieu fermé, comme la tragédie, se concentre sur une scène. C'est à huis clos que délibère le jury, comme le font les dieux dans l'Olympe. Il y a aussi le huis clos prononcé par le président, le fatidique garde, faites évacuer la salle pour des raisons morales, familiales ou politiques. C'est surtout ce huis clos que nous allons évoquer dans ce colloque. Et c'est ce huis clos qui fascine. Que va-t-il se dire? Que va-t-il se passer? Il y a d'autres formes de huis clos où le condamné futur est exclu. Et c'est le procès de Kafka revu par Orson Welles. Il y a aussi une autre forme de procès, c'est la mise hors la loi, où il n'y a plus besoin de huis clos. Pas loin d'ici, il y a un certain nombre d'années, Napoléon se rendit aux Anglais. Et depuis, il est de bon ton d'accabler la perfide Albion d'avoir déporté sans jugement Napoléon à Sainte-Hélène. En réalité, Napoléon n'avait pas à être jugé. Il avait été mis par cette décision bien pire que le huis clos, la mise hors la loi. Ne l'oubliez pas, Robespierre, mis hors la loi, doit se contenter d'une simple reconnaissance d'identité devant le tribunal révolutionnaire. Napoléon est mis hors la loi par les puissances européennes au Congrès de Vienne et les Anglais pourraient très bien le fusiller ou le jeter à l'eau sans autre forme de procès. Mais revenons au huis clos. Au fond, mesdames, messieurs, le huis clos, c'est la tragédie, mais sans lever de rideau. C'est l'écran blanc. Mais je voudrais vous rassurer autour au terme de cette brève intervention. Le rideau va se lever dans notre colloque et l'écran s'animer devant vous. Bon festival.
Oui, je voudrais, à propos de ce film et de l'intitulé de nos contributions, ça n'y ressemble pas, mais vous êtes dans un tribunal, présenter quelques caractères généraux qui me semblent être ceux du huis clos, et en particulier à travers ce film, qui est un film de Martin Ritt, tourné, sorti en 1964, et qui s'appelle L'Outrage. Et qui nous transporte évidemment, comme beaucoup de huis clos, dans l'odieux, l'odieux humain. Ce sont deux malfaiteurs de rencontre dans le Grand Ouest américain qui commencent une conversation. Et il y a un bandit mexicain, Carrasco, qui commence à dire à un pasteur, qui est lui-même celui qu'il a rencontré, qui est lui-même un malfaiteur, c'est tout dire, même le pasteur est un malfaiteur, voilà, il commence à raconter son crime. En fait, il a suivi un couple de jeunes mariés, et il a abusé de la femme qui l'a violée, tout en maîtrisant au préalable son mari. La femme finit par s'éprendre de lui, elle entre dans un système de duplicité, elle devient complice de la mort du mari, etc. Donc le truc drôlement sympa finalement, et qui nous ramène à notre humanité un peu bestiale, qui nous fait comprendre aussi que notre processus d'hominisation n'est pas terminé complètement. Alors, pour moi, je donnerai quatre caractères généraux au huis clos. Je dirais d'abord que c'est un enfermement en principe. Mais celui-là, c'est un huis clos en pleine nature, dans l'Ouest sauvage. Et que même quand le huis clos est un vrai huis clos judiciaire, il n'est pas complètement séparé du monde extérieur. C'est un enfermement que j'appellerais paradoxal. Parce que le monde extérieur est là. Le huis clos se définit par rapport au monde extérieur. Et la structure psychologique, sociologique, mentale des acteurs, elle est celle du monde extérieur, évidemment. En second lieu, je dirais, bon, on pourra développer tout ça ensuite, parce qu'on va faire du ping-pong, comme l'a dit le doyen, avec Xavier Davera. Le huis clos nous transporte dans l'intimité de l'odieux. S'il y a un huis clos, c'est qu'il y a une certaine monstruosité à traiter, à expurger, je dois dire, et à soigner peut-être. dans une sorte de thérapie collective, mais une thérapie pour initier, c'est-à-dire qui rassemble les acteurs volontaires ou involontaires, les acteurs négatifs, les victimes, en quelque sorte. Et le huis clos intervient normalement dans le monde judiciaire, lorsqu'il est traité sur le plan judiciaire, lorsqu'il y a une protection des victimes à assurer, leur dignité, leur honneur, c'est-à-dire que le procès normalement est public, et le public, l'opinion publique, la population a droit au procès public, donc le huis clos est un système d'exception. Mais il y a des cas où, quand la dignité et l'honneur des victimes peut être en cause, pour éviter que les faits soient exposés sur la place publique, le huis clos vienne s'imposer. Il peut être demandé par les victimes, et à ce moment-là, il est de droit. Mais il y a aussi la considération que le huis clos peut aussi intervenir lorsque l'ordre public pourrait être encore plus, de façon plus dommageable, atteint par une exposition publique des faits. Or là, avec le film de Martin Ritt, on est dans un concept LVMH, je dirais. C'est pas Louis Vuitton, Moët Hennessy, malheureusement, mais c'est, je dirais, luxure, violence, mensonge et haine. Hein. Mais bon, c'est, je dirais que sans monstre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un monstre? Vous faites un raccourci sociologique ou psychologique. C'est vrai qu'un monstre, c'est quelqu'un d'entre nous qui passe à l'acte. Mais sans monstre, pas de huis clos. Et deux amoureux qui roucoulent et qui s'embrassent sur un banc public, pour reprendre une image de Brassens, ce n'est pas un huis clos, puisqu'il n'y a pas de méchant, ou du moins pas encore. Ils n'ont pas divorcé. Et donc, il nous faut des méchants. Hein. Et c'est là qu'on rejoint le western, finalement. C'est un huis clos de western. Il y a vraiment là des méchants dans ce huis clos. Et le film de Martin Ritt, qui est d'ailleurs un remake américain d'un film de 1950 du réalisateur japonais Kurosawa, Rashomon, qui est considéré comme un de ses films les plus réussis, ce huis clos, c'est un enfermement relationnel entre un nombre d'acteurs limité en pleine nature, en plein ouest américain. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et en plus, dans un stress considérable, parce qu'il y a de la monstruosité à traiter. Une monstruosité qui ne peut être traitée qu'entre acteurs, ou subissant en quelque sorte. Alors, si nous revenons encore à l'outrage, et en élargissant la scène, en prenant un peu un grand angle, on s'aperçoit que peut-être le sens caché du film, c'est qu'il y a tout de même une beauté dans la vie. Hein, je pense qu'on pourrait en tirer cette conclusion, une beauté de l'être. Elle est cependant conditionnée par une exigence, c'est que nous sachions et que les acteurs sachent, sociaux que nous sommes, sachent tenir en laisse soigneusement leur monstre intérieur, car nous l'avons tous, ce monstre intérieur. Et je me souviens au passage d'un très beau chapiteau de ma ville natale, Clermont-Ferrand, de sa plus belle église romane, qui est Notre-Dame du Port, de Porte, l'entrée de la ville, où on voit un homme qui tient en laisse un singe, et c'est son singe intérieur. Je trouve que c'est très beau, parce que finalement, c'est le contraire de la recherche de l'absolu, de la perfection humaine. Même la recherche de sainteté ne doit pas nous conduire à tuer notre singe intérieur, parce qu'il est notre référence. On ne va pas au bien si on n'a pas la référence du mal, en quelque sorte. Et que le vrai combat de l'homme, c'est celui-ci. C'est la vraie vie de l'homme, c'est d'être un combat contre lui-même, en quelque sorte. Et alors, je terminerai, pour ne pas faire trop long et parce qu'on va en reparler, sur un autre aspect du huis clos. Dans le film L'Outrage, je trouve que c'est un huis clos particulier parce que la victime, qui est le mari tué, revient dans la conversation par le biais d'un médium, et qui est une sorte de sorcier en quelque sorte. C'est particulier parce qu'on arrive à un système de procès, finalement, où c'est la victime elle-même, par le biais du médium, par le truchement, hein, au sens étymologique qu'avait ce terme dans le vieux français, c'est-à-dire celui d'interprète, hein, les interprètes des ambassadeurs, des vieux ambassadeurs de France, des premiers ambassadeurs de France, on les appelait les truchements. Et par le biais de ce truchement, c'est la victime qui juge. Alors là, on n'est plus dans la sagesse d'un tribunal, hein, parce que souvent on voit des avocats devant les juridictions en appeler à la sagesse du tribunal. Le jugement rendu est supposé être l'émanation d'une sagesse du tribunal. On l'a vu d'ailleurs avec le documentaire de Raymond Depardon. Vous avez vu qu'à un moment, la présidente, elle dit bon, on vous accorde le bénéfice du doute, je n'ai pas assez de preuves dans le dossier, je vous relaxe. Et c'est de la sagesse, hein, de la sagesse juridique et de la sagesse humaine. Et là, on n'est plus dans une relation de juridique ou judiciaire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas un vrai procès, c'est pas un vrai huis clos judiciaire, c'est un huis clos relationnel, finalement. Et on est dans la violence de la vengeance. Finalement, on arrive à ce paradoxe où la victime n'a pas la sérénité pour, peut-être que Xavier Davera me contredira, mais n'a pas la sérénité pour pardonner, en quelque sorte, ce qui conduirait à une position de sagesse et à faire que la victime elle-même ne se laisserait pas entraîner dans la négativité des acteurs du crime. En fait, elle va sur leur terrain, puisque par sa présence même dans le huis clos, par son intervention, par le fait que c'est un peu elle le juge, elle transporte le débat sur la vengeance. La vengeance, c'est le contraire de la sanction civilisée, c'est le contraire de la distanciation civilisée qui est censée offrir un tribunal. Enfin, je dirais que le huis clos, c'est un stress maximal, enfermement, au moins relationnel, pour ce qui est du film L'Outrage. Et là, pas moyen, pas d'échappatoire. Hein, les auteurs du crime doivent répondre, sont face à leurs victimes et ils doivent en répondre.
Nous avons ce soir un peu les oreilles qui coulent, tant nous avons engrangé aussi, m'efforcerai-je d'être assez brève et concise. Mais tout d'abord, au-delà des hommages d'usage, je souhaite remercier nos deux organisatrices, Agnès Delugé et Magali Flores-Longeau, qui ont porté ce projet osé et inattendu pendant plus d'un an, traversant parfois dans cette aventure, comme l'exprime Rémy Arcan dans Le déclin de l'Empire américain, quelques tracas facultaires. Mais le résultat est là et nous avons passé deux jours hollywoodiens, passionnants et joyeux. À toutes les deux, merci. Nos deux copines m'ont confié la rude tâche du clap de fin. C'est un honneur, mais c'est aussi un redoutable exercice de style dont je vais essayer de me tirer. Cette réunion, colloque droit et cinéma, si dense, nous a permis de voir ou revoir, en marge du festival officiel, trois films américains de la période 60-70, en noir et blanc, L'Outrage de Martin Ritt, si superbement réhabilité par notre ami Davra, Le sergent Rutledge de John Ford, dont le président Tixier a décrypté tous les codes, et le bien connu, peut-être trop connu d'ailleurs, 12 hommes en colère de Sidney Lumet, prétexte à une étude comparative du doyen Guéry et du professeur Vidot. Nous avons aussi eu le privilège de deux rencontres précieuses. La première, celle de Jean Tullard, qui, sous ses airs de collégien farceur, est venu ouvrir nos débats avec la verve et la sobriété qui lui sont coutumières. Vivante encyclopédie du cinéma, il est l'auteur d'un des dictionnaires cinématographiques parmi les plus connus en langue française, mais n'oublions pas qu'il est surtout historien, spécialiste du Premier Empire et de Napoléon, universitaire reconnu, un grand enseignant de notoriété internationale, un incomparable directeur de recherche. Ses facéties verbales cachent à la fois un immense savoir et un cœur d'or. Il nous a quittés en nous assurant de son immortel parrainage. La seconde rencontre a été celle de Raymond Depardon, merveilleux monsieur, accompagné de son indispensable Claudine. Autrefois, Raymond Depardon faisait peur, même dans le métier. Il faisait du cinéma social, rude, austère, en plan fixe, sans fioritures. Il avait la réputation d'être bougon, peu aimable, radical dans ses idées et dans ses montages. Ses descentes dans les commissariats de quartier embarrassaient. Le temps à travailler pour lui lui a donné une rondeur, une affabilité délicieuse et son cinéma a survolé toutes les strates de la société française entre 1960 et aujourd'hui. C'est précieux parce que c'est très bien fait. Raymond Depardon est un grand artisan du cinéma. Son dernier opus sur le monde rural sévenol, ce monde de taiseux comme il dit, a été très bien accueilli à Cannes et il faut s'en réjouir. L'agriculture sera sous peu le dernier bastion du savoir snob et de l'obligation alimentaire délivrée de Texaco et de la British Petroleum. La parabole de la vache malade nous tiendra lieu de viatique dans un monde aride, dévasté par la sottise. Ensuite, pour clore la soirée, sous la ferme tutelle du doyen Christian Guéry, nous avons passé une heure d'une exceptionnelle qualité en revisitant la dixième chambre de Raymond Depardon. Cette dixième chambre, lieu surréaliste où le juge tente d'élucider les bizarreries humaines, de redresser des vies chancelantes ou de grossières iniquités, rude métier, pathétique panorama urbain. Le juge Guéry nous a rappelé fort opportunément que le métier de juger consistait en un subtil dosage d'écoute, d'humanité profonde et de technique. Et puis vint l'imprévisible outrage dont le sage Jean-Paul Pancratio décrypta les messages sociaux, l'enfermement mental dans l'immensité du Grand Ouest lugubre, la proximité de l'odieux révéla le singe qui est en nous. Xavier Davra compléta l'analyse, soulignant l'extrême théâtralisation du mensonge, de la lâcheté, la triangulation d'un drame quasi grec incrusté dans le western. Jean-Marie Tixier nous rappela le génie de John Ford, la complexité patriotique de ses films à travers l'éclairage qu'il nous donna du sergent Rutledge, en français le sergent noir, si théâtral lui aussi. Les modèles sociaux pullulent chez Ford, qui est avant tout un amoureux fou de son pays, mais également très critique et un moraliste appliqué. Ce sergent noir, emblématique de la haute tenue morale des militaires chargés de maintenir l'ordre dans un Ouest encore primitif et proie de tous les dangers, est confronté à la valeur relative de la vérité, au choix entre le devoir et l'affection. Il est également face aux préjugés racial. Tout cela dans le cadre grandiose du Grand Canyon du Colorado, où, soit dit en passant, je n'ai jamais découvert la moindre ferme, sans doute pour mieux montrer la petitesse humaine. Moralisateur, Ford montre une héroïne belle et rigoureuse, comme doit l'être une femme d'officier américain, une fois que, grâce au huis clos, la vraie version des faits aura été débusquée. Le coupable, réel, est un peu providentiel, mais peu importe, l'exercice de style est réussi, même s'il se fait sur le dos des méchants indiens. Le juge Guéry, lors de notre seconde journée de colloque, nous invita à disséquer l'audience américaine à la suite de la projection des 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Ce film, quasi scolaire, il faut bien le dire, montre le huis clos où, coupés du monde, des hommes tentent de reconstruire une vérité et de donner une solution de justice. Nous sommes en plein dans notre sujet. Christian Guéry nous fait remarquer les grandes différences entre la procédure française et la procédure américaine, entre l'accusatoire et l'inquisitoire, entre la présence ou l'absence d'un juge lors des débats des jurys. Nous remarquons que nous sommes quelque peu intoxiqués par les séries télévisées et les films américains. Le cinéma américain, nord-américain, est le plus procédurier du monde, capable de faire un film entier avec un procès. Sans doute parce que l'idée de justice dans une société encore pionnière restait tellement violente est importante pour garder un minimum de civilité sociale et de cohérence. La justice, le juge, sont au sommet du système référentiel nord-américain, alors qu'en droit français, le sommet, c'est la loi et le législateur, ce qui donne un profil extrêmement différent à l'influence sociale du juge. Des films récents comme l'affaire von Bülow ou Minuit dans le jardin du bien et du mal, tous deux tirés de livres à succès, montrent l'attachement profond des productions des studios américains à des cas de droit. Le plus naïvement spectaculaire de ces films est sans doute La revanche d'une blonde, avec la magnifique Reese Witherspoon démontant au passage les mécanismes des études juridiques à Harvard et le fonctionnement des stages en cabinet d'avocats new-yorkais. Nous est donnée l'occasion de nous interroger sur la notion de doute raisonnable, mise en avant au début de 12 hommes en colère, et la comparaison que l'on peut faire avec l'intime conviction à l'européenne, deux notions proches de la morale, voire même de la métaphysique. Les films de prétoire seraient-ils des exercices de séduction où les protagonistes, à partir d'un doute, d'une intime conviction, tentent de convaincre les autres intervenants? Le professeur Richard Vidot nous invite alors à nous demander si la justice est proche du sacré, notamment pour les jurés des instances criminelles, car il y est question de mettre fin à la vie qui est par définition sacrée. Ou bien, à ce titre, a-t-elle à voir avec l'infernal? Autrefois, il n'y a pas si longtemps, l'enseignement du droit s'attardait longuement sur les origines sacrées de la justice. Les foudres divines, Saint-Louis, le chêne, tout ce bazar. Mais on peut aller aussi du côté de Cioran, que je cite: si on essaie d'expliquer la vie de l'humanité par la domination de Dieu, on n'y comprend rien. Mais si on veut bien admettre que c'est le diable qui mène la danse, alors tout devient limpide. Avec 12 hommes en colère et son étouffant huis clos, Lumet fait un film militant. Dès la première image, on sait que, tournant le dos dans son beau costume clair, regardant par la fenêtre, Henri Fonda va être le raisonneur, l'empêcheur de condamner en rond, celui qui va obliger les 11 autres à revenir sur leur première approche et sur eux-mêmes. Ce film est une métaphore assez lourde, certainement, mais démonstrative. Ces 12 apôtres laisseront-ils exécuter un prétendu coupable? Seul un huis clos permet un débat si pervers. Le huis clos, la porte close, a été créé afin de pouvoir dire l'indicible. L'indicible, l'imprononçable, l'imprononçable social, moral, familial, sexuel, militaire, financier, d'ordre public ou d'ordre privé, sans déranger l'ordre de la société dans laquelle le trouble s'est produit. Car les sociétés ont avant tout besoin d'ordre et de rien d'autre. Le rapport du cinéma au huis clos est fort ambigu, car le huis clos est fait pour cacher, pour atténuer, alors que le cinéma est fait pour montrer, pour provoquer. Alors la transaction se fait par la parole, par le dialogue, les exposés des faits par les différents protagonistes. On ne dira jamais assez l'importance des dialoguistes dans ce type de cinéma, dans le cinéma de prétoire. Les trois films américains que nous avons vus, tout comme La dixième chambre de Depardon, existent bien plus par la parole que par l'image. Ils s'écoutent beaucoup plus qu'ils ne se regardent. D'ailleurs, ce sont souvent des sujets adaptés de pièces de théâtre. Il y a aussi le huis clos du silence, de ces films quasi-muets de Jacques Tati, de Deluc, aujourd'hui du coréen Kim Ki-duk, par exemple son film Locataire, où il n'y a presque pas de dialogue, qui invite à regarder, à se concentrer sur le visuel, sur les situations, et délivre leur message presque uniquement par l'image et son ordonnancement, ce qu'on appelle le montage. Beaucoup de réalisateurs de films au sujet criminel font leur montage eux-mêmes ou assistent de très près leur monteur afin d'arriver au résultat souhaité. Le huis clos renvoie à soi-même. En fait, hors de l'aspect pénal sur lequel nous nous sommes penchés, les huis clos sont multiples dans nos vies, dans nos sociétés pourtant si bavardes, remuantes et exhibitionnistes. Les huis clos sont des arrêts sur image, huis clos des familles et de leurs drames intimes, huis clos du lit conjugal, huis clos de l'argent, de l'enrichissement, du cambriolage, huis clos de l'enfance muette, infance en latin et celui qui ne parle pas, huis clos des écoles, des pensionnats, des collectivités, des usines, des bureaux, des banques, des vestiaires de foot, des hôpitaux, des salles d'opération, des maisons de retraite, des prisons, des camps de rétention, huis clos des naufrages, des avions en vol, des îles désertes. Or, la caméra se glisse désormais partout. Elle scrute, lorgne, enregistre, divulgue, détruit le huis clos, le droit au silence, au secret, à l'intimité. Quelquefois pour un bien, mais souvent aussi pour un mal. Le fameux droit à l'intimité pour lequel l'Européen a tant bataillé depuis deux siècles. Le droit à l'intimité est un huis clos vis-à-vis de la société dévoreuse d'images, dévoreuse d'informations. C'est exactement la porte refermée, car les désordres intimes, ceux des cerveaux, ceux des corps, ceux des familles, ceux des héritages, ceux des banquiers, par exemple, l'affaire Kerriel est une rupture explosive du secret des banques. Huis clos des chefs civils et militaires doivent être gardés, protégés. L'homme doit ignorer les ratés de l'homme. Le cinéma, enfin, vis-à-vis du huis clos, a inventé, offert et bétonné deux transgressions majeures. Avec sa manie de montrer, le film transgresse le huis clos de l'amour et le huis clos de la guerre. Je m'explique. Huis clos de l'amour, c'est-à-dire la représentation de soi que l'on porte vers autrui. L'amour est un sentiment, une attirance, un désir, voire un fantasme. Très souvent, il n'a rien à montrer du tout. Or, depuis 120 ans, un des moteurs majeurs du succès cinématographique est de montrer l'amour au public dans des salles plus ou moins obscures. On en est alors arrivé à une confusion totale entre sexe et amour. D'où le fameux baiser hollywoodien, longtemps seul permis sur les écrans et encore interdit dans le cinéma indien et une partie du cinéma asiatique, le plus long baiser de l'histoire est, je crois, celui échangé dans Casablanca par Bogart et Bergman. Il y a aussi l'inoubliable baiser d'Autant en emporte le vent devant Atlanta en flammes, où les mortels échanges salivaires de la femme araignée. Et puis, après 45, le hop au lit s'installe avec ses ébats traditionnels de bête à deux dos, comme l'écrivit Colette. Ils paraissent maintenant banalement évidents après la libération sexuelle des écrans dans les décennies 70. L'amour impalpable, fugace, celui germé dans le huis clos des cerveaux, de l'imaginaire, des sentiments intimes, est souvent passé à la trappe, sauf peut-être dans le très complexe cinéma britannique, pour un exhibitionnisme lassant, car si on y réfléchit bien, on n'a jamais que deux bras de jambes. comme le dit Billy Bob Thornton à la magnifique Cate Blanchett dans Bandit de Barry Levinson, l'amour est quelque chose que l'on porte en soi et qu'on est le seul à connaître. Le huis clos de la guerre, maintenant, a été définitivement brisé par la transgression cinématographique. En ouvrant la boîte du combat permanent, car une fois repu, reposé et reproduit, l'homme ne rêve que d'en découdre, le cinéma a brisé le secret de la guerre, laquelle, jusqu'à pratiquement la guerre de 14-18, était réservée aux professionnels. L'irruption de photographes et de cinéastes civils est récente et a tué ce huis clos militaire qui restait un secret social bien gardé. On en est arrivé à « Ah Dieu, que la guerre est jolie », dont le spectacle ne lasse jamais et dont les salles obscures font leur pain blanc. De la grande illusion à Iwo Jima d'Eastwood, de Joyeux Noël à Star Wars, de la bataille des Ardennes à l'imbécile Seigneur des Anneaux, du jour le plus long à Paris brûle-t-il, de Stalag 17 à la Grande Évasion, de l'Armée des Ombres à la 317e section, les sables obscurs résonnent de bombardements fournis, de cris d'agonie et de luttes sans merci. Nous bataillons par procuration dans un univers de douleurs reconstituées et de stars confortablement rémunérées pour ne mourir qu'à la fin une décoration sur l'estomac. Dans le cinéma occidental, un film produit sur six est encore consacré à la Seconde Guerre mondiale, un film produit sur trois narre une lutte, une guerre, un combat, une quête sanglante, comme disent maintenant les ados. Et puis il y a des huis clos nouveaux, récents, permis par les avancées technologiques et dont le cinéma s'est emparé. Huis clos phénoménal et inquiétant des otaku, rivés à leurs écrans dans des luttes informatiques cinématographiées incessantes. Mon écran et moi. Ils en oublient de manger, de dormir, de pisser, de sortir prendre l'air, ils en meurent. Huis clos des survies également, des maintiens en vie de cerveau dans des corps devenus incapables. Parle avec elle, ou bien le scaphandre et le papillon sont des huis clos nouveaux, inimaginables il y a peu encore, dont le cinéma traduit l'étrangeté dérangeante, l'intime mystère. La notion de huis clos dont nous avons privilégié l'aspect procédurier et pénal est finalement très vaste, car comme les films que nous avons revu l'exprime plus ou moins adroitement, il renvoie à soi-même, à l'intime démarche mentale de chacun. L'intime conviction évoquée à plusieurs reprises dans nos débats relève du pressentiment, de l'intuition, autant que de la technique de la recherche d'une vérité toujours relative ou précaire. Le huis clos permet souvent aux protagonistes de se découvrir eux-mêmes, ou s'ils ne le font pas, c'est leur environnement social qui les débusque dans ce qu'ils ont de plus intimement inexprimé. Sous cet angle, la représentation cinématographique, tout comme l'instance en tribunal, avec sa mise en image du doute, du débat, du conflit verbal, avec la reconstitution des faits, invite le spectateur à entrer dans le jeu complexe des interprétations sociales et de la recherche de la vérité. Voilà, nous avons voyagé dans le huis clos, ce qui fut presque paradoxalement une occasion de nous ouvrir au monde de manière inattendue et jolie. Merci Agnès, merci Magali, merci à tous et à toutes d'avoir été si brillants et disert. Merci au public zélé et fidèle. À l'année prochaine et vive le cinéma!
Vous venez d'entendre Françoise Thibault, docteur en droit public et en sciences politiques et correspondant de l'Institut. Françoise Thibault clôturait le colloque Droit et cinéma consacré pour cette première édition 2008 au huis clos. Vous avez pu entendre au cours des extraits sélectionnés Jean Tullard de l'Académie des sciences morales et politiques et Jean-Paul Pancratio, docteur d'État agrégé en droit public. Ce colloque s'est déroulé à La Rochelle en marge du Festival du cinéma. Restez à l'écoute de Canal Academy et téléchargez l'émission consacrée au dictionnaire du roman policier en compagnie de l'historien Jean Tulleur. Écoutez également Jean-Paul Pancratio sur le nouveau droit international et sur les mots de la diplomatie. Et bien sûr, les émissions de Françoise Thibault sur le site de canalacademy.com. Merci de votre écoute et à bientôt.